Bonjour chers élèves, bonjour à tous. Aujourd'hui 4 février 2016, après 2-3 semaines de cours, enfin on va dire 2-3 semaines où il n'y a pas eu cours, malheureusement. À cause des examens ici, qui se sont déroulés à la Ounette, malheureusement, il n'y a pas eu cours de français. Aujourd'hui, après 2-3 semaines, nous revenons. Donc, comme ça fait déjà un petit temps, on va faire une petite révision de ce que nous avons vu la dernière fois. Donc, nous sommes toujours à l'unité numéro 2. Nous sommes en train de terminer l'unité numéro 2. Nous sommes à la partie de la grammaire. Et nous avions vu, si vous vous rappelez, le verbe avoir. Le verbe avoir que nous avons conjugué à l'indicatif présent et nous avons vu les formes affirmatives de l'avoir, rappelez, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. D'accord? Et aussi, nous avions vu la forme négative. Vous vous rappelez, pour faire la forme négative, nous avions utilisé l'adverbe de négation, ne pas, autour du verbe. Donc, je n'ai pas, tu n'as pas, il n'a pas, nous n'avons pas, vous n'avez pas, ils n'ont pas. D'accord? On a bien dit que le E face à une voyelle devient une apostrophe, donc c'est pour ça que le ne, quand il y a une voyelle, on met n apostrophe. Enfin, la troisième chose que nous avions vue de l'avoir, toujours à l'indicatif présent, c'est la forme interrogative que vous avez ici devant vous, n'est-ce pas? Cette forme interrogative qui se trouve ici, nous avions vu qu'on utilisait, pour la forme interrogative, on allait utiliser cette forme-là. Le est-ce que, d'accord? Est-ce que, et puis, j'utilise le verbe sujet-verbe, dans ce sens-là, sujet-verbe. Ici, il n'y a pas de modification ou d'inversion sujet-verbe, on maintient n'importe, on le maintient tel quel. Sujet d'abord, et puis le verbe ensuite. Donc, on disait, est-ce que j'ai? Est-ce que tu as? Est-ce qu'il a? Est-ce que nous avons? Est-ce que vous avez? Est-ce qu'ils ont? D'accord? Donc dans ce cas-ci, très facile, quand j'utilise et je veux poser une question, j'utilise cette formule. Disons, on va appeler ça une formule pour poser la question. Pour poser une question. D'accord? Si je veux poser en français une question, j'utilise seulement le est-ce que. D'accord? Et je suis sûr que la personne qui se trouve en face de moi, hein, la personne à laquelle je vais lui présenter ou je veux lui demander, d'accord, va comprendre que je suis en train de lui poser une question. Donc l'importance de l'utilisation du est-ce que. Je crois avoir dit la dernière fois, qu'il n'y a pas que cette forme-là, que cette formule-là pour poser des questions. Bien sûr, il y a trois formes de poser des questions en français. L'une d'elles, c'est en utilisant le est-ce que. L'autre, c'est en faisant l'inversion sujet-verbe. Et la troisième, on va dire que c'est l'utilisation de l'intonation montante. D'accord? Mais ça, nous le verrons au fur et à mesure des cours. D'accord? Pour l'instant, pour le moment, je préfère vous dire que si vous utilisez cette forme-là, cette manière, cette formule interrogative en utilisant le est-ce que, il n'y aura pas de problème. Ça va? Voilà. Pour les personnes qui ont eu un peu plus de complications, peut-être à me comprendre en français, je vais le faire rapidement en espagnol. Et bueno, para comenzar, Hemos hecho una pequeña revisión de lo que vimos la semana pasada, o sea, la última vez que hemos tenido clase. Hemos visto el verbo avoir, que es la traducción tener o haber, ¿verdad? Al indicativo presente, eso es lo que hemos visto, al presente, al indicativo presente. Y hemos visto las formas, la forma afirmativa, negativa y interrogativa, e interrogativa. En la forma afirmativa hemos visto que se utiliza j'ai, tu as, il, elle ou on a, nous avons, vous avez et il ou elle, ah, c'est masculino o femenino, on, ¿d'accord? Esta es la forma afirmativa, afirmando algo. Si utilizo la forma negativa, utilizo entonces un adverbio, en francés se llama adverbio de negación. Entonces, este adverbio de negación es el más fácil o el más común que se utiliza en francés, es el ne pas. Entonces, utilizo el ne pas y diríamos, je n'ai pas, tu n'as pas, il, elle, on n'a pas, nous n'avons pas, vous n'avez pas, il ou elle n'ont pas. ¿D'accord? Entonces, hemos dicho que la E, la E que está delante de una vocal, esa E se elimina y se pone una apóstrofe. ¿Ya? Una apóstrofe. Porque la E es débil frente a cualquier vocal, hasta frente a una otra E. ¿Ya? Tercero. Forma interrogativa. La forma interrogativa. Entonces hemos dicho que una de las formas más fáciles de hacer preguntas, porque la forma interrogativa es para formular una pregunta, es utilizar el est-ce que, esta forma est-ce que. Entonces, para utilizar el est-ce que, lo que hago es, utilizo esta al principio de la frase y mantengo el sujeto y el verbo normal. ¿Ah? Entonces, est-ce que j'ai, est-ce que tu as, est-ce qu'il a? Est-ce que nous avons? Est-ce que vous avez? Est-ce qu'ils ont? ¿Ya? ¿Vio? En este caso, lo que hago es que haciendo esta, digamos, esta fórmula interrogativa, le es que, si utilizo el es que, estoy seguro que mi interlocutor francófono va a entender que le estoy haciendo una pregunta. No va a tener duda que le estoy haciendo una pregunta, ¿ya? Y va a ser fácil porque lo que hago es utilizo el est-ce que y después mantengo sujeto, verbo y complemento. Fácil. ¿Ya? Así. Porque en francés también hay otra forma de hacer preguntas. Hay otra forma interrogativa. Hay tres, en realidad. Tres grandes. Que es, está utilizando el est-ce que o otros, vamos a ver, otras palabras interrogativas, ¿ya? Después hay una segunda que es utilizando la inversión sujeto-verbo, y la tercera es la entonación la entonación subida, ¿ya? Que sube. Y ahí ya es más difícil porque es complejo hacerlo, un poquito más complejo. Entonces, lo más fácil es esta forma que le estoy explicando ahora. Como estamos un nivel debutante, mejor utilizar las cosas fácil para aprender. Entonces, es una de las formas fáciles, ¿ya? Perfecto. De todas maneras, las otras las vamos a aprender al transcurso del año, de lo que queda del año. ¿Sabes? Bueno. Je reprends. Donc, nous étions arrivés à la forme interrogative. Et maintenant, ce que j'ai bien marqué ici, et je le vois avec vous, j'ai marqué que le 21 du 1, donc ça serait, on n'est pas venu le 21 du 1. On était, malheureusement, la Ounette était fermée à ce moment-là. Il fallait faire l'article indéfini. La page 52 de votre livre. À la page 52 de votre livre, si vous l'avez sous la main, tant mieux. Moi, je ne l'ai pas scanné. Malheureusement, je ne l'ai pas scanné encore. Nous le ferons durant la semaine prochaine. J'essaierai de le faire d'ici 2 semaines. Je vous promets de l'avoir d'ici 2 semaines. Je vais en parler avec les informaticiens et je vais essayer de le faire de la meilleure façon. Bien. Prenons. Donc à la page 52, à la page 52, 52, ce que nous allons voir, c'est effectivement les déterminants articles définis. Ce qu'on appelle en français déterminant, c'est un T. Déterminant on les appelle articles. Avec le mouse, c'est pas facile. Et on a dit indéfini. Voilà. J'essaie vraiment de bien écrire. Bravo. Voilà. Nous avions vu les articles, les déterminants articles définis. Vous vous rappelez, c'était le, la, les et le L apostrophe. Définis. Définir. Ici, nous parlons des déterminants articles indéfinis. Indéfini, déterminant pourquoi? Parce qu'il détermine un nom ou un adjectif. D'accord? Et il est indéfini parce qu'on ne peut pas savoir si c'est exactement cette chose de laquelle on est en train de parler. D'accord? Ce n'est pas très sûr. On n'est pas très sûr si c'est cette chaise, une chaise, la chaise. Voilà. Donc on n'est pas très sûr. Donc ce sont les indéfinis. Donc, en parlant des indéfinis, on va parler du genre. Masculin, ça va, masculin ou féminin, ça va, voilà. Ça c'est le genre. Puis le nombre, on aura le nombre. Le nombre, ça sera singulier, d'accord? Ou pluriel. Ça, c'est le nombre. D'accord. Voilà. Voilà. Donc, en français, nous avons un déterminant article indéfini masculin singulier qui est j'ai le maj en majuscule 1. D'accord? On va appeler alors un livre. Livre est masculin. Qu'est-ce qu'il y a encore de masculin? Cahier. On prend cahier. Un cahier. Ça va? Je suis en train de chercher un autre. Ah, voilà. Un téléphone. Voilà. Voilà. Donc, tous ces mots, ce sont des mots masculins. Donc, si je veux utiliser le déterminant indéfini, j'utiliserai le 1. Un livre. Un livre. On ne sait pas à qui il appartient. C'est juste un livre. Un cahier. Un téléphone. D'accord? On ne spécifie pas à qui il appartient ou combien il y en a. On n'est pas sûr. Il y en a un, il y en a deux, il y en a trois. Où est-il? C'est un, c'est des. Bon. Ce que je veux dire, c'est que c'est indéfini. Pour ce qui est de la féminin singulier, nous avons le déterminant une. Une, par exemple, une chaise. D'accord? Une chaise pour s'asseoir. Une fenêtre. En face de moi, j'ai une fenêtre. D'accord? Fenêtre est un mot féminin. Et une clé. Ça va? Clé. La clé pour ouvrir la porte. D'accord? Ça va? Voilà. Donc, vous avez un pour les mots. Je vais le mettre en gros. Vous avez le un pour le masculin. Vous avez une pour le féminin. Maintenant, pour le pluriel. Facile. Comme avec celui du défini, il n'y en a qu'un seul. Donc nous allons effacer cette séparation. Il n'y en a qu'un seul. C'est... Voilà. D. Comme ça. Ça va? C'est un D. Hein. D. Alors, on pourrait dire... des lunettes. Avec un S, bien sûr, final, puisqu'on est au pluriel. Des lunettes. Des portes. Voilà. Et des feuilles. Feuilles. Voilà. Voilà. Donc, le pluriel, c'est celui-ci. Facile. D. D'accord? Voilà. Quels sont les déterminants articles indéfinis en français? Un, une, des. Y a-t-il d'autres? Non. Comment, avec les définis, il y a normalement le L apostrophe. Quand le mot commence par une voyelle, tant masculin comme féminin, hein. Mais dans ce cas-ci, non. Il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, voyez bien, un, une, des. J'arrive jusqu'ici. Moi, l'explication en français. Je vais le faire maintenant en espagnol pour des personnes qui peut-être n'ont pas très bien compris, rapidement. En espagnol, pardon, en français, existe el determinante artículo indefinido. ¿Cuáles son? Hay tres importantes. Los tres más importantes. Solo esos. Hay masculino cuando la palabra, cuando el nombre es masculino, singular, existe el un. En este caso, un libro, un cahier, un teléfono. Un libro, un cuaderno, un teléfono. ¿Ya? Cuando la palabra es femenino y singular. Si es femenino, voy a utilizar el artículo indefinido une. Une chaise, une fenêtre, une clé. Una silla, una ventana, una llave. ¿Ya? Y cuando cuando la palabra es masculino o femenino al plural, aquí hay un solo determinante, como con el definido. En el definido es le, L, mientras que acá es de, ¿d'accord? Des lunettes, des portes, des feuilles. Unos lentes, unas puertas, unas hojas. ¿Ya? Donc, en este caso, no existe otro. No, no como en el determinante artículo definido, donde existe la L apóstrofe cuando comienza con una vocal al singular, se tiene que poner una L apóstrofe. En este caso, no. No hay apóstrofe. Es un o une. Y nada más. No hay choque entre la E final de une, por ejemplo, con una vocal. Porque detrás de él hay una N. Entonces eso no le produce ningún problema. ¿Está va? ¿Se claro? ¿Está claro? Ya. Esos son los tres más importantes del determinante artículo indefinido. Voilà. Donc nous avons vu les déterminants articles indéfinis. Donc sachez que déjà vous connaissez les articles définis. Le, la, les et à l'apostrophe. Maintenant vous connaissez les déterminants articles indéfinis. Un, une. Voyez bien la différence. Hein? Un, qui est un son nasal. Attention, un son nasal, c'est-à-dire que le son sort autant par la bouche que par le nez. C'est clair? Le son doit sortir par la bouche et par le nez. Donc on dit un. L'autre c'est une, u. Avec la u, vous vous rappelez qu'on avait vu les voyelles. I, u, ou. Ben c'est la u, avec la n qui suit. Alors ça fait une. Pas besoin de prononcer la E finale, d'accord? Une, c'est déjà bien. On comprend que c'est le féminin. Tandis que un, c'est déjà le masculin. Donc il n'y a pas de problème de prononciation. Et la D, d'accord? Là, vous le prononcez tel quel. D. Ça va? Nous allons faire un petit exercice. Oui, nous allons faire un petit exercice. Dans votre livre, vous voyez, je vais vous le montrer. D'accord? Ici. À la page 52. Avant les articles partitifs, il y a un petit contrôle. Mais ça fait rien, on va pas appeler ça un contrôle, on va faire ça un exercice. Donc, il dit compléter avec l'article indéfini. Donc, il écrit la chambre à placard. Donc, placard termine avec un S. Donc, si c'est avec un S, vous devez penser directement à c'est un pluriel. Et donc, comme c'est un pluriel, vous devez mettre des. Donc, on dira la chambre à des placards. Ça va? Dans la 2. Jean et Olivier ont chambre réservée. Donc, la séparation, disons, ce qu'il faut compléter, c'est juste entre le verbe ont et chambre réservée. Donc, dans ce cas-ci, chambre est un mot féminin, mais il est singulier, il n'y a pas d'S. Donc, on va utiliser le une. Jean et Olivier ont une chambre réservée. 3. Anne n'a pas, là il y a une séparation, valise. Valise avec un S final. Quand j'ai un S final, je sais que donc il y a le pluriel. D'accord? Que c'est le pluriel. Donc, je dois utiliser directement l'article indéfini pluriel. Donc on va utiliser des. Anne n'a pas des valises. Enfin, les chambres ont belle vue. Les chambres ont belle vue ES. S'il y a un S, je sais que je dois utiliser des. Mais attention. Attention, justement. Et je vais mettre un petit attention. Attention, c'est ça. Attention. Quand c'est au pluriel, pluriel. D'accord? Quand c'est le mot au pluriel. Et s'il y a un adjectif plus le nom, d'accord. Exemple. Cet exemple-ci que vous aurez devant vous, belle. Belle vue. Qu'est-ce que je dois mettre devant? Normalement, je devrais utiliser l'article pluriel, évidemment, le pluriel des. D. D-E-S. Mais malheureusement, quand le D est devant un adjectif, il se transforme. Il se transforme en de. D'accord? Et on dira de belles vues. D'accord? C'est clair? Je répète. Tout ça en espagnol. En espagnol. Et l'article indéfinio. Entonces, el masculino es un. Escuchen bien. Un, que es un sonido nasal. Quiere decir que el... Cuando yo lo pronuncio, tiene que salir el aire, tanto por la boca como por la nariz. ¿Ya? Entonces, por eso se escucha como un sonido, como salió de la nariz más. Ah, abriendo además la boca. Ah, ah, como cuando cuenta en francés. Un, deux, trois. Ese es el un. ¿Ya? Es un sonido nasal. A diferencia con el otro, que es el femenino, une. Eso lo hemos visto ya, porque es la U. Cuando hemos visto la primera unidad, vimos los sonidos I, U, U. Esa es la segunda. U, con la proyección de los labios hacia adelante. U. Y le sigue una N, entonces le pronuncio UN. Y no tengo que pronunciar la E final, porque en francés la E final no se pronuncia. ¿Ya? Entonces diré une. Y es diferente de la a. Entonces la une va a ser para femenino. Yo sé que escuchando une es femenino. Y yo sé que si pronuncio a con ese sonido nasal, va a ser masculino. Y por el D no hay problema. Ya, D. La E normal. La E normal. ¿Eh? Se pronuncia D. No tengo que hacer énfasis ni en la S. No, la S no se pronuncia casi en francés. Casi, porque no quiero generalizar, pero hay, yo contaría unas 4 o 5 palabras en francés donde se pronuncia la S final para hacer una diferenciación con otra palabra, que es la misma, pero quiere decir otra cosa. Entonces tengo que pronunciar en una la S y la otra no la pronuncia. Pero eso para otra cosa. Bueno. Hemos visto el ejercicio que hemos hecho y nos dimos cuenta que en el ejercicio de la página 52, en el nivel de control número 1, artículo indefinido, en la cuarta frase, cuarto ejercicio, está escrito: les chambres ont belle vue. E mo visto che quando veo vue, es, e tengo que usar entonces el plural. El plural tengo que usar des, des, des. Pero, y aquí viene una pequeña modificación, cuando hay un nombre con un adjetivo adelante, ¿ya? Un adjetivo, entonces lo que hago es que debido a ese adjetivo, como belle es adjetivo, vu es el nombre, yo tengo que cambiar ese de, lo tengo que transformar en de. Nada más que eso, se transforma en de. Entonces, en vez de decir, les chambres ont de belles vues, no. Para hacerlo más, digamos, más melódico, los franceses utilizaron que frente a un adjetivo, ese de se transforma en de. Una de, digamos, de. Y se pronuncia de, además, la e. Entonces voy a decir, les chambres ont de belles vues. ¿Ya? Ont de belles vues. ¿Ya? Entonces ese de, efectivamente, es una, un indefinido en este caso. ¿Ya va? Voilà. Hemos llegado hasta acá, al menos para los artículos indéfinis. Nous allons voir maintenant les articles définis, avec ceci on va terminer, ça va? À la même page 52, ça va? Nous avons ce que les Français, ce qu'ils appellent les déterminants articles. Ce sont des déterminants aussi. J'essaie de bien écrire. Les déterminants articles particifs. Déterminants articles particifs. Comme le nom l'indique, comme le nom l'indique, article, c'est un appel, article particif. Particif, ça veut dire par. Qu'est-ce que ça veut dire une par? C'est une petite portion de quelque chose, d'accord? C'est une fraction de quelque chose, pour vous dire. Donc, particif, ça veut dire une partie de quelque chose, de plus grand. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est une partie de quelque chose que l'on connaît, mais qu'on n'en connaît pas la quantité. On ne sait pas savoir combien c'est. Ce n'est pas un indéfini. Non, c'est juste une partie de quelque chose. Ça va? Et on l'utilise souvent en français pour désigner des quantités indéterminées. Ça va? Il s'utilise pour des quantités indéterminantes, pour des choses qu'on ne peut pas déterminer, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de combien c'est. D'accord? Bien. Il se divise, bien sûr, je suis en train de voir la page, en genre masculin, on va mettre un petit point, féminin, d'accord, en genre. Féminin. Et aussi en nombre, soit il est singulier, soit il est pluriel. Voilà. Donc, dans les articles particifs ou déterminants articles particifs, puisqu'ils déterminent aussi un nom ou un adjectif, on utilise pour les particifs qui est, comme on a dit, une partie ou une quantité de quelque chose qu'on n'est pas sûr, c'est un déterminant. On va utiliser En français, au masculin, on va dire du. D'accord? Du, c'est facile. Au masculin. Regardez. Je veux du café. Mais combien vous en voulez exactement? Oh, je veux une tasse, une grande tasse, une petite tasse. Combien? Je veux du café. Je veux du sucre. Combien de sucre? Je sais pas. D'accord? 1 grain? 10 grains? 1 cuillère? 3 cuillères? Non, je veux du sucre. Donc, c'est plutôt indéfini. D'accord? Attention. Il se peut que si le mot commence par une voyelle, alors ça change. C'est plus du. On va utiliser le de L apostrophe. Exemple, je veux, comme il écrit là dans votre livre, je veux de, pardon, ça doit être en noir. Je veux de l'alcool. D'accord? Je veux de, je veux de l'ananas. Ananas. Je veux de l'ananas. On ne sait pas combien, mais le mot commence par une voyelle, alors j'utilise le de et l'apostrophe. Si le mot commence par une consonne, j'utiliserai le du. D'accord? Ça, c'est pour les mots masculins. Pour ce qui est des mots féminins, j'utiliserai de la. Oh, j'étais en train d'écrire. De la. De là. Et qu'est-ce que ça peut être un exemple? Je veux de la crème. Crème est un mot féminin. De la confiture, par exemple. Et bien sûr, si le mot est au féminin, s'il commence par une voyelle, alors vous utiliserez comme pour le masculin, le de et l'apostrophe. Par exemple, je veux de l'eau. Eau est féminin. Je veux de... Je suis en train de chercher un mot féminin avec le modèle, quelque chose. Là, j'ai pas d'exemple. Ça vous a pas, non. Bon, ça fait rien. Enfin, pour ce qui est du pluriel, comme dans les autres cas, il n'y a pas pour le masculin, pour le féminin, il n'y a pas de différence, c'est juste un seul, ça sera des. Par exemple, je veux des biscuits, par exemple. Biscuits. Je devrais écrire plutôt en majuscule, c'est plus facile. Biscuit. Je veux des bananes. Ça va? Voilà. En gros, ça va? C'est pas trop compliqué? Je crois pas. J'ai fait un petit récapitulatif en espagnol. pour les personnes qui peut-être n'ont pas assez bien compris ce que je voulais dire. Bueno, en español, determinante artículo partitivo. Como dice el nombre, partitivo es una parte de algo. Esto no existe, no tiene equivalente en español. Es una parte de algo, ¿ya? Y generalmente es una cantidad indeterminada de algo, ¿ya? En este caso, se utilizan como con los otros determinantes, en género, masculino o femenino, si la palabra es masculino o femenino, y en número, si es singular o plural. Bueno, si es masculino, singular, vamos a utilizar el determinante partitivo du, como este, du café y du sucre. Yo quiero café, quiero azúcar. No dice cuánto. Le hago más o menos la traducción. No hay una palabra que la pueda traducir, pero sería, si habría que hacer una traducción de algo, se debería traducir, yo quiero café, yo quiero azúcar. Ahora, si esa palabra comienza con una vocal masculina, como alcohol o ananá, son palabras masculinas, singular, entonces utilizo el partitivo, o el determinante partitivo de L apóstrofe, ¿ya? Ejemplo, de l'alcool, de l'ananá. Alcohol o ananá. Piña. Bueno, para el femenino, si es la palabra femenina, como crème o confiture, entonces utilizo el partitivo de la. De la crème, de la confiture. Yo quiero crema, yo quiero dulce. ¿Sí? Dulce. Mermelada. Me parece que no. Si la palabra comienza con una vocal como O, que es femenino, entonces utilizo de el apóstrofe, como con el masculino. ¿Sí? Al final, si la palabra es plural, tanto masculino como femenino, se reúne solo una, es de. Como para el indefinido, oui, el mismo. Pero aquí se hace referencia a una cantidad de cosas indeterminadas. ¿Ah? Una parte de algo, ¿ya? Entonces, de biscuit o de banana. Biscuit son galletas. Galletas, yo quiero, por ejemplo, je veux des biscuits, je veux des bananes. Quiero galletas, quiero plátanos. ¿Ya? ¿No hay traducción? No hay traducción, desgraciadamente. No hay traducción de este pequeño determinante al español. ¿Ya? Pero sepan que es una parte de algo. Ça va? Bien, voilà. Nous sommes arrivés à la fin du cours. Pour aujourd'hui, on avait vu au moins deux articles, deux déterminants articles importants, le déterminant article indéfini et le déterminant article partitif. La semaine prochaine, nous verrons, et je vais le mettre ici, je vais le mettre en rouge, nous verrons ce qui est le lieu. Les prépositions de lieu ou prépositions de localisation. Ça va? À la page 53. Ça va? Et là, on va voir tout ce qui est les prépositions de lieu, c'est-à-dire devant, derrière, en haut, en bas, en face, à côté, au coin, au pied, tous ces éléments qui vous permettent de localiser certaines choses. Ça va? Eh bien voilà, je vous laisse jusqu'ici. Merci d'avoir suivi le cours. Je vous reverrai la semaine prochaine qui sera le jeudi 11. D'accord? Je mettrai ici. Nous verrons le 11 du 2. Voilà. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Au revoir.